Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
24 juin 2022, il est 18h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition au sommaire. Les attaques terroristes continuent à l'intérieur du pays. Le commissariat de Fana et des forains à Nioro du Sahel ont été la cible des présumés terroristes cette semaine. Bilan, un mort et des biens emportés. À la recherche de l'inclusivité autour des réformes politiques et institutionnelles, le ministre de l'administration territoriale doit rencontrer dans les prochains jours les forces vives de la nation. Il a été mandaté par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le manque de carburant continue d'inquiéter la population à Bamako. En plus du risque d'une nouvelle flambée des prix, les responsables des stations déplorent les difficultés liées au ravitaillement. Le développement de ces points dans quelques instants avec Adama Amadou Haïdara. Le commissariat de Fana, cercle de Dioïla, a été ciblé hier soir par une attaque de présumés terroristes. À Nioro du Sahel, des hommes en armes ont dépouillé des forains de leurs biens. Ces attaques interviennent quelques jours après le massacre de nombreuses personnes dans le cercle de Bankas. Mamadou Samasekou nous fait le point.
À Fana, des sources locales indiquent que l'attaque du commissariat de police a eu lieu aux environs de 23 heures. Ces mêmes sources ajoutent qu'elle a été perpétrée par une douzaine de terroristes à moto. Le bilan serait d'un agent mort et un autre grièvement blessé. Les policiers auraient également récupéré des munitions. Ces sources soulignent que l'armée procède à des ratissages dans la zone. Hier, à Nioro du Sahel, des millions de francs CFA ont été emportés par 5 hommes armés et cagoulés à moto. Ils ont braqué des forains en provenance de la foire hebdomadaire de Fassou Debe sur la route nationale 6 dans la commune de Yerere. Ce braquage aurait aussi occasionné un blessé grave selon des habitants de la zone. Par ailleurs, le calme serait revenu à Bankas quelques jours après le massacre de nombreuses personnes dans le cercle par des présumés djihadistes. Un habitant de la localité précise que des ONG sont en train de recenser les déplacés pour une éventuelle distribution de vivres. L'armée est sur place pour assurer la protection de la population, poursuit la même source. C'est dans cette mouvance que la mission des Nations Unies au Mali MINUSMA a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces massacres de Djalassagou, Djambéli et Dessagou dans le cercle de Bankas.
Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, le chef de la Katiba de Massina dément être l'auteur des massacres de civils dans le cercle de Bankas. Cependant, les spécialistes estiment que les villages ciblés par ce drame sont une zone où opèrent les éléments d'Amadou Koufa. Ainsi, pour Alfoussine Guindo, chargé de recherche au Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, ce démenti peut être juste une stratégie de communication. Il est joint ici au téléphone par Mamadou Samasekou.
Il convient de rappeler une chose. La zone dans laquelle l'attaque a eu lieu est une zone connue comme une zone où opèrent les groupes djihadistes, la Katiba de Massina. Donc ceci étant, toutes les hypothèses sont plausibles pour attribuer cette attaque à la Katiba de Massina. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, à travers le communiqué qui a démenti l'acte perpétré à Djalassagou comme étant l'acte de la Katiba de Massina, cela pourrait être aussi une communication, notamment de la Katiba de Massina, pour dissuader ou pour diviser les autres opinion publique par rapport aux actes de terreur qu'ils sont en train de semer dans cette zone. Sinon, toutes les hypothèses déterminent que c'est la Katiba de Massina, car c'est elle qui opère dans cette zone-là majoritairement, notamment qui est le centre du Mali, y compris dans la zone exondée et dans la zone inondée.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Dans un tweet ce vendredi, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, en visite à Bamako, affirme avoir rencontré le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il dit avoir pris note des actions entreprises par les autorités de la transition en faisant allusion au calendrier de la transition et un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le médiateur et son équipe ont aussi présenté leurs condoléances au gouvernement suite au massacre perpétré dans le cercle de Bankas la semaine dernière. Une vingtaine de personnes vivant avec un handicap ont pu améliorer leur aptitude dans l'analyse des textes de loi électorale. C'était lors d'une formation organisée par la Fondation internationale des systèmes électoraux, IFES, qui a pris fin hier jeudi à Bamako. Elle vise notamment l'inclusion de ces personnes dans le processus électoral. Abdoulaye Touré.
Pour les bénéficiaires, cet espace d'échange leur ont permis de tout savoir sur l'accessibilité des élections pour les personnes handicapées. Rokia Diakté, membre de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées.
Il s'agissait d'apprendre à analyser les lois, de savoir si la loi est inclusive, si elle prend en compte toutes les personnes. L'inclusivité n'a pas encore été atteinte. On est très loin de l'inclusion des personnes handicapées dans les lois. La formation a vraiment été une formation vraiment utile.
Cette session est organisée par la Fondation relations internationales pour les systèmes électoraux. Son directeur payé, Mathias Nkompé, s'attend à une utilisation plus efficiente des mécanismes expliqués au cours de cette rencontre.
Notre espoir, c'est que les participants utilisent les outils et les techniques qui ont été développées aujourd'hui pour améliorer la qualité des documents de plaidoyer qu'ils préparent à l'attention des législateurs.
À savoir que dans le nouveau projet de loi électorale, seul un article s'intéresse aux personnes vivant avec handicap.
Comme annoncé dans les titres, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a mandaté le ministre de l'administration territoriale pour rencontrer les forces vives de la nation en vue d'échanger sur le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles. C'était ce vendredi 22 juin lors du Conseil des ministres. Le colonel Abdoulaye Meïgar doit ainsi rencontrer dans les prochains jours les partis politiques et la société civile, entre autres. À Bamako, certaines stations manquent de carburant. Depuis quelques semaines, les responsables de ces stations se disent préoccupés par cette situation. Si certains craignent une nouvelle flambée du prix du carburant, d'autres déplorent les difficultés liées au ravitaillement. Ils demandent aux autorités de prendre des précautions. Notre reporter Assitou Kanté a fait un tour dans certaines stations de la capitale.
La hausse du prix du carburant et sa rareté ne cessent de s'accentuer dans le pays. De la rive gauche à la rive droite, certaines stations sont fermées par manque de carburant. La situation devient inquiétante selon les gérants de certaines stations.
Nous sommes comme ça ici, c'est là pratiquement 2 à 3 semaines que nous sommes en rupture de carburant. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, c'est très difficile. Nous attendons de voir comment la situation va évoluer.
Cela fait 24 jours que nous ne travaillons pas. Nous n'avons pas de gasoil ni d'essence. Nous ne savons pas comment on va faire. C'est très dur ces derniers temps.
Pour Abdramane Koulibaly, gérant d'une station d'essence de la place, c'est le ravitaillement qui est plus difficile. Il indique que le litre a connu une hausse du côté des grossistes.
Le plus difficile, c'est d'avoir le carburant. Si on parvient à l'avoir, son prix coûte très cher que celui fixé par l'État. Par exemple, le prix du gazole est de 809 francs, mais certains nous donnent le prix en engros à 815 francs. Donc, il est difficile de revendre au prix fixé par l'État. Il y a vraiment une rupture de stock. On ne peut même pas parler de l'essence. Je ne crains que son prix n'augmente encore dans les jours à venir.
Il faut noter que le prix du litre d'essence est à 811 francs CFA et celui du gasoil à 809 francs CFA. Mais ces prix varient selon les stations.
À l'intérieur du pays, à Kangaba, région de Koulikoro, l'exploitation de l'or pourrait contribuer à l'amélioration de la situation des populations, mais tel n'est pas le cas. Ici, des problèmes sont récurrents entre Chinois, exploiteurs et petites mines et les populations. Le président du conseil de cercle de Kangaba dénonce surtout la façon dont les Chinois détenteurs ou non détenteurs de permis, pour la plupart, s'installent sur des sites. Les détails avec Idrissa Sakou.
L'un des problèmes majeurs auxquels les populations sont confrontées est surtout l'exploitation des petites mines. Selon Bakary Keïta, président du conseil de cercle de Kangaba, ces mines sont entretenues par des Chinois sans souvent l'avis des populations.
Avec la présence des Chinois aujourd'hui qui font des petites mines, aujourd'hui sont des foyers de tension qui opposent les populations. Parce que c'est des gens qui viennent négocier partiellement avec soit des prolétaires terriens ou avec quelques cancres du village, donc ce qui n'est pas sans révolte.
Comment ces petites mines sont installées? Ont-elles une autorisation? Comment sont-elles gérées? Bakary Keïta, président du conseil de cercle de Kangaba.
Et les approches sont très très mauvaises. Parce que même si la DNGM leur donnait des permis de recherche ou des permis d'exploration ou bien des permis d'exploitation, alors c'est des gens qui ne passent pas par les autorités locales pour que celles-ci les introduisent. Si cela se faisait, ça allait beaucoup encore réduire le problème.
Ici, à Kangaba, l'opinion locale pense que pour que l'exploitation minière soit profitable à tous, il est nécessaire, voire indispensable, d'associer les communautés à la base avant toute négociation. De Kangaba, Idrissa Sako pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
En région, une opération de distribution alimentaire et monétaire au profit de 234 ménages vulnérables de Kai et de Kenyeba s'est tenue hier jeudi 23 juin 2022 à Kai. L'objectif était de renforcer la résilience des ménages vulnérables impactés par les conséquences de la COVID-19 dans ces cercles. Cette activité a été financée par l'Union européenne. Une soixantaine de femmes et jeunes victimes d'exploitation sexuelle de Gao ont reçu ce mercredi des équipements pour leur installation. Le don est composé de matériel agro-pastoraux, de congélateurs, de thermos, de baignoires et d'autres produits alimentaires. Les bénéficiaires avaient déjà suivi une formation. Le don a été financé par la MINUSMA. Le directeur du centre d'animation pédagogique de Bafoulabé a rencontré les syndicats de l'enseignement de Bafoulabé mercredi dernier. L'objectif était de mettre des stratégies en place pour la bonne tenue des examens de fin d'année. Une autre rencontre est prévue ce samedi 25 juin entre le DECAP et les présidents des centres d'examen du DF pour affiner les points. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez y réécouter à tout moment toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Bon début de week-end à tous. La campagne agricole a démarré à Mbewani, une zone de production de 2000 hectares aménagée par l'Office du Niger dans la commune de Pogo. Située dans le cercle de Nyono, les femmes jouent un rôle important dans la production agricole dans cette partie de la région de Ségou. Cependant, elles craignent une incursion djihadiste, comme ce fut le cas lors des deux précédentes campagnes. Au-delà de l'insécurité, le coût élevé de l'engrais inquiète aussi les producteurs de la localité. Le sac est vendu à 40 000 francs CFA. Notre envoyé spécial à Ségou, Arkia Touré, s'est rendu dans les champs de Bewani.
Toutes les femmes du Mali.
Mbewani est située à 35 km de Markala dans la région de Ségou. La campagne agricole du riz bat son plein dans cette zone de l'Office du Niger. Dans le champ de riz de Bakary Nkloubali, c'est l'étape du repiquage. Selon lui, cette opération a démarré depuis 3 semaines, mais son champ de plus de 4 hectares et demi n'a toujours pas reçu d'engrais par faute de moyens.
Un cultivateur ne peut s'épanouir si l'engrais est trop cher. Quand tu n'as pas d'engrais, il te sera difficile de faire une bonne campagne. Il te sera aussi difficile de t'acquitter de ta rédaction. Dévance en eau, mais avec de l'engrais, les bénéfices sont importants.
À quelques mètres de là se trouve un groupe de femmes paysannes. Les pieds dans l'eau, elles font le repiquage sous un soleil de plomb. Cette activité n'est pas sans conséquence sur leur santé, selon Nana Traoré, femme paysanne.
Celles qui voient le repiquage tombent toutes malades avant la fin de l'hivernage. D'autres ont mal au dos et au cou à tel point qu'ils n'arrivent plus à faire autre chose. C'est pareil à la période de transport des semences aussi. Mais que faire puisqu'on vit de ça?
En effet, les femmes jouent une étape importante dans les travaux champêtres dans la zone Office du Niger. D'ailleurs, certaines phases ne sont exécutées que par les femmes. Fatoumata Samake, présidente de l'association des femmes paysannes de Mbewani.
Les femmes commencent de l'extraction des pépinières au repiquage dans les champs inondés jusqu'au transport du riz. On ne participe plus au battage du riz car il y a des machines pour ça maintenant. Par contre, après la moisson du riz, nous récupérons les restants avant qu'ils ne soient battus. On gagne dans ça aussi.
L'activité principale dans cette partie du cercle de Nyono est consacrée à l'agriculture. Cependant, selon Fatoumata Samaki, l'insécurité impacte fortement leurs travaux.
On entend des tirs toute la journée et toute la nuit. Ça ne va pas. Nos esprits ne sont pas tranquilles. On voit nos enfants et nos petits-enfants mourir. Actuellement, nous avons notre champ à Djongomba et ce sont les militaires qui les surveillent. Nous savons aussi qu'on ne pourra pas travailler quand les militaires s'en iront. Nous sommes vraiment inquiets pour cela.
Le chef des villages de Mbewani, Amara Koulibaly, lance un appel aux autorités pour sécuriser la campagne en cours.
On a besoin d'aide. Nous n'avons plus de vivres car on n'a pas pu cultiver ces dernières années. Pour cette année, on a commencé, mais on ne sait pas comment ça va finir.
Arkia Touré de retour de Mbewani pour Studio Tamani.